Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
L'Irak connaît une nouvelle vague de violence entre sunnites et chiites. Le pays subit actuellement l'impact du conflit voisin en Syrie. Témoignage dans quelques instants de Mgr Sacco. 100 000 chrétiens sont tués violemment chaque année à cause de leur foi. Mgr Tomasi s'exprimait à la tribune des Nations Unies. Dans ce magazine, nous nous intéresserons aussi à deux thèmes qui préoccupent les évêques européens, la crise économique et la migration. Vous entendrez l'un des vice-présidents de la Comécé qui a rencontré le pape François la semaine dernière. Éclairage également sur l'adoration eucharistique planétaire qui aura lieu dimanche prochain, un événement présenté à la presse ce mardi. Bienvenue dans ce magazine. L'Irak connaît actuellement une véritable spirale de la violence. Une série d'attaques a fait lundi au moins 58 morts et près de 200 blessés dans le pays. Ces attentats visaient essentiellement la communauté chiite de Bagdad et ses alentours. Le bilan des victimes de ces deux derniers mois avoisine les 1000 morts. Les attentats ont redoublé d'intensité depuis qu'un rassemblement de sunnites fin avril a été réprimé dans la violence par les forces de l'ordre irakiennes. Les sunnites, minoritaires dans le pays, manifestent depuis plusieurs mois, il s'estime marginalisé par le gouvernement chiite de Nouri al-Maliki. Nous avons joint Mgr Louis Sacco, le patriarche de Babylone des Chaldéens. Il participait la semaine dernière à Beyrouth, au Liban, à un congrès sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Devant l'Assemblée, il a souligné la nécessité pour les chrétiens de ne pas s'en tenir seulement aux paroles, mais de mettre en place des stratégies. Mgr Sacco a également évoqué ce regain de violence en Irak entre sunnites et chiites et la déstabilisation de son pays par le conflit syrien. On l'écoute.
La tension maintenant, c'est clair. Il y a une grande tension politisée entre les chiites et les sunnites. Et le conflit en Syrie entre sunnites et chiites, ou alawites, mais aussi ailleurs, a une grande influence sur la situation irakienne. Il y a des gens qui appuient l'opposition et d'autres qui appuient le régime. Oui, il y a des influences des pays aussi. Donc, c'est un danger pour l'Irak de se diviser, malheureusement. Nous avons présenté une initiative de réconciliation. Tout le monde était d'accord, mais j'attends la réponse des responsables kurdes pour avancer cette initiative. Mais aussi, il y a d'autres initiatives de la part des autorités religieuses musulmanes. On va voir comment faire ensemble.
La population irakienne, comment réagit-elle vis-à-vis du conflit syrien?
C'est-à-dire, nous avons une expérience très tragique et brutale de la guerre et de la tension, alors qu'auparavant, on se sentait irakien et personne ne pensait à demander à quelqu'un « qu'est-ce que tu es ?» sunnites, chiites, kurdes, arabes, chrétiens, musulmans. Aujourd'hui, c'est très, très forte, cette identité-là. Donc, les gens sont fatigués et ne cherchent que la paix et la stabilité.
Comment l'Église peut-elle contribuer à apaiser, justement, les esprits?
Je crois avec un discours très équilibré et aussi neutre, ne pas être en faveur d'un groupe contre un autre. Il faut dire la vérité, demander des réformes, appuyer la réconciliation des politiciens, des gens qui sont au gouvernement et dans la politique, et aider les gens à voir un peu plus loin et la dignité de l'homme et surtout des gens innocents. Moi, je crois personnellement que le Saint-Siège a un rôle primordial dans tout le conflit du Moyen-Orient, sans s'engager dans la politique, mais peut faire beaucoup pour la réconciliation, le dialogue et promouvoir la culture du dialogue qui est très nécessaire, et aussi encourager les chrétiens à rester et demander aux pays et aux églises en Occident d'aider ces chrétiens à rester et à respirer en créant quelques projets ici et là, surtout pour les jeunes.
Monseigneur Sacco a adressé la semaine dernière une lettre au clergé de son église rappelant qu'il n'existe ni majorité ni minorité dans l'église. L'attachement aux racines ethniques et culturelles chaldéennes ne doit pas devenir un culte fanatique de l'identité nationale si l'on ne veut pas obscurcir la catholicité de l'église, a-t-il souligné. Dans ce texte cité par l'agence Fides, le patriarche décrit l'église chaldéenne comme une réalité blessée et dispersée, indiquant parmi les causes de cette condition déplorable, la déstabilisation du pays suite à la chute du régime de Saddam Hussein et la fuite d'un certain nombre de prêtres en Occident. Environ 100 000 chrétiens sont tués violemment chaque année à cause de leur foi. C'est le chiffre avancé par Mgr Tomasi, observateur permanent du Saint-Siège près les Nations Unies et les autres organisations internationales à Genève, lors de la 23e session du Conseil des droits de l'homme. Les chrétiens, dénoncent le représentant du Saint-Siège, sont contraints de tout quitter, de supporter la destruction de leur lieu de prière. Ils subissent les viols et les enlèvements. Le Proche-Orient, l'Afrique et l'Asie sont les régions ou continents où se sont déroulées le plus de violations contre la liberté religieuse. Elles sont le fruit du sectarisme, de l'intolérance, du terrorisme et des lois d'exclusion, déclare Mgr Tomasi. L'Europe, a-t-il précisé, territoire où la présence chrétienne fait partie intégrante de la société, n'est pas épargnée. Une tendance émerge qui tente à marginaliser le christianisme dans la vie publique, à en ignorer l'apport historique et social, et même à restreindre les capacités des communautés de foi à mener leurs œuvres sociales. Monseigneur Mario Toso, secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix, a lui déploré une augmentation d'épisodes d'intolérance et de discrimination contre les chrétiens, en dépit de nombreuses réunions et conférences sur le sujet. Il s'exprimait depuis Tirana en Albanie lors de la conférence de haut niveau sur la tolérance et la non-discrimination à l'initiative de l'OSCE, qui s'est tenue les 21 et 22 mai. Il a notamment mis en évidence une intolérance à l'égard du discours chrétien, mais aussi de la conscience chrétienne, en particulier sur les lieux de travail. Les responsables européens rencontreront jeudi prochain à Bruxelles les dignitaires des grandes religions présentes en Europe, comme le prévoit l'article 17 du traité fondamental de l'Union européenne. Les membres de la Comecé participeront à cette rencontre annuelle. La semaine dernière, les responsables de la commission des épiscopats de la communauté européenne étaient à Rome pour leur assemblée générale. Ils ont rencontré le pape François jeudi dernier, un pape d'origine argentine qui s'est montré très intéressé face aux problèmes de l'Église en Europe. Quelles sont-elles? L'éclairage de Mgr Jean Cockerols, évêque titulaire d'Ypres et évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, l'un des vice-présidents de la Comecé.
Deux, trois grandes questions nous préoccupent fort à la Comecé. Toutes les questions de migration, de liberté de circulation au sein de l'Union, tout ce que cela implique. Un des vice-présidents de la Comecé est Mgr Berchea, évêque d'Oradea en Roumanie, qui a évoqué devant le pape le défi énorme de la Roumanie avec 5 millions de Roumains à l'extérieur, dans le reste de l'Europe. Donc un grand thème qui va être traité à notre assemblée plénière. Et puis par ailleurs, et là je me suis un petit peu appesanti sur ce thème-là, c'est le sentiment d'appartenance que nous avons à avoir en tant qu'Européens à l'Europe unie et un destin commun, dans le respect de nos différences, de nos sensibilités différentes, de nos histoires différentes, mais nous avons néanmoins quelque chose à construire ensemble. Autrement dit, pour le dire un peu plus synthétiquement, osons-nous encore, dans nos pays, croire au projet de l'Union européenne?
C'est toujours la question de l'altérité, hein, entre la migration, la foi en une Europe unie.
Comme je l'ai dit au Saint-Père, c'est le défi de la catholicité, c'est-à-dire comment vivre unis dans un respect infini de nos diversités? Comment vivre une solidarité vraie et effective tout en respectant une subsidiarité, c'est-à-dire en respectant les compétences locales de chaque nation, de chaque région?
Et de chaque religion?
C'est un autre défi. C'est en Europe la rencontre des religions. Je pense que tout cela est encore très très embryonnaire. Nous sommes au début du 21e siècle avec cet énorme défi en Europe occidentale et en particulier dans nos grandes villes. difficile dans nos métropoles de la rencontre avec des gens qui ne confessent pas le Christ.
C'est une thématique dont on parle beaucoup, notamment au Parlement européen. La christianophobie, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Est-ce que vous en avez parlé de ça aussi? Et est-ce une réalité, aussi, évidemment?
Je crois qu'il faut nuancer particulièrement cette question de christianophobie et je pense que ce serait une erreur de se focaliser sur des comportements effectivement christianophobes de la part de certaines personnes. Mais faire une analyse générale sous ce registre une prétendue christianophobie, je pense que c'est une erreur. Comme le cardinal 23 à Paris aime à le souligner, il y a d'abord un tel gouffre culturel entre le monde sécularisé et le monde chrétien qu'il y a surtout une incompréhension réciproque, une grande difficulté à se comprendre, à s'entendre, serait-ce au niveau du vocabulaire, des images utilisées. Déjà là, il y a tout un travail à faire qui va bien au-delà d'événements ponctuels où effectivement il y a de temps en temps de la christianophobie. D'autant plus que c'est une question, disons, du côté de l'Union européenne, on est encore au début de toute une réflexion. Donc nous avons effectivement à parler, nous ne devons pas nous taire. Reste à savoir quand et comment nous sommes entendus.
Jean Coquerolles s'interrogeait par Marie Duhamel juste après sa rencontre avec le pape François. Autre thématique au cœur des préoccupations de l'épiscopat européen, la crise économique et sociale sans précédent et les souffrances qui en découlent. Le pape a tracé la feuille de route ce mois-ci en dénonçant le fétichisme de l'argent, source de la négation du primat de l'homme. Il a réfuté la conception de l'être humain comme bien de consommation qu'on peut utiliser puis jeter, explicitant les termes traditionnels de la doctrine sociale de l'Église, notamment la destination universelle des biens et l'attention aux pauvres. Le pape François a souligné les pathologies contemporaines, précarité, peur, désespérance, amenuisement de la joie de vivre, croissance des violences et des indécences. Un sursaut des politiques des États est nécessaire. Le bien commun ne devrait pas être un simple ajout inséré dans les programmes politiques, mais son principal but. Le pape avait donc lancé un appel aux dirigeants des entités financières à prendre en compte l'éthique et la solidarité. Un appel qui trouve un écho dans les mouvements de jeunesse contre la crise, une jeunesse européenne qui fait principalement les frais de la récession et des politiques d'austérité, en particulier celle des pays du Sud, frappés par un chômage de masse. Écoutez l'analyse d'Hugues Lagrange, sociologue au CNRS à Paris.
Les trois pays du Sud de l'Europe qui ont connu les mouvements les plus importants sont des pays qui ont connu des épisodes de dictature importants, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, bien sûr, mais dans lesquels l'alternance politique a joué un rôle et a fonctionné avec des partis de gauche et des partis de droite ayant une expérience significative du pouvoir. Partis qui, néanmoins, n'ont pas réussi à apporter des réponses à la hauteur des transformations du monde, des transformations que l'Europe subit plus qu'elle ne les initie ou impulse. Et de ce point de vue-là, pour une fraction large de la jeunesse, née dans une Europe au fond assez prospère, le sentiment d'une impasse politique s'est fait jour et elle cherche des voies à l'extérieur des réponses politiques traditionnelles. Elle les cherche avec les formes parfois un peu naïves d'une volonté de retour à la démocratie directe, peut-on dire. En tant que tel, ces mouvements sont intéressants, plus que la rhétorique qui les accompagne.
On parle souvent de génération sacrifiée. Est-ce que c'est le cas selon vous?
Ce sera une génération pour laquelle les choses seront difficiles de toute façon. Même si en gros, on peut dire qu'en Europe, ceux qui sont du bon côté de la digital divide, de la fracture numérique, qui ont des diplômes, s'en sortiront mieux. Tout le monde souffrira. Et le plus, ceux qui sont vraiment les laissés pour compte de l'éducation et de la formation professionnelle.
Les piliers sur lesquels reposaient les politiques économiques et sociales de l'Europe, pour n'en citer qu'un, l'État-providence, qu'est-ce qu'il faut faire? Rafistoler ces modèles-là ou bien les changer complètement?
Je pense qu'il faut changer un certain nombre de choses. Tout le monde appelle des réformes de structure qui sont difficiles à mener. C'est sûr que l'État ne peut plus tout, que dans des pays où il y a une faible croissance, l'impôt ne permettra pas de répondre par la dépense publique comme il l'a pu pendant 30 ou 40 ans. Et que de ce point de vue-là, il faut que se recompose de l'initiative et peut-être envisager sérieusement les questions du développement durable, les questions d'une économie stable sans forte croissance, qui ne soit pas une économie dépensière. S'en sortir, ce n'est pas simplement dépenser plus. Comment proposer, exactement dans la lignée de la critique des années 80 sur le consumérisme, une économie sociale à croissance faible? Je n'ai pas plus la réponse ou le modèle que la plupart des gens, économistes ou experts, mais c'est sur cette voie-là, et non pas sur la promesse de « mais on va rattraper la croissance », alors que le monde a changé, que la place de l'Europe n'est plus ce qu'elle était, qu'on peut fonder des espoirs et des attentes.
Hugues Lagrange, interrogé par Olivier Tosserie, dans le cadre d'un débat organisé à l'ambassade de France à Rome la semaine dernière, entre les revues françaises Esprit et italienne Micromega, sur le thème « Avoir 20 ans en Méditerranée », un débat auquel participait le directeur de la revue Esprit, Marc-Olivier Padis. C'est précisément aux jeunes que le pape s'est adressé ce mardi dans un nouveau tweet. « Chers jeunes, écrit-il, l'Église attend beaucoup de vous et de votre générosité. Ne perdez pas le courage de viser haut. » Une adoration eucharistique planétaire et simultanée aura lieu dimanche prochain. Pendant une heure, de 15h à 16h en temps universel, le monde catholique sera en liaison spirituelle avec le pape à Rome. C'est une première dans l'histoire de l'Église. Cet événement a été présenté aux journalistes ce mardi matin par Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Les explications de Romilda Ferrotto.
Un événement sans précédent, les diocèses du monde entier seront en pleine communion avec le pape François dimanche, simultanément le temps d'une adoration eucharistique. À Rome, elle se déroulera de 17 à 18 heures dans la basilique Saint-Pierre. Au même moment, de l'Alaska au Japon, en passant par le Chili, la Nouvelle-Zélande, Israël ou le Vietnam, les évêques feront la même démarche dans leur cathédrale. Mais pas seulement, des paroisses, des congrégations religieuses, des associations et des monastères cloîtrés ont accepté de se joindre à cette initiative inédite voulue par Benoît XVI dans le cadre de l'année de la foi. Un réseau invisible de fidèles en prière aux mêmes intentions sous la devise « Un seul Seigneur, une seule foi » en signe d'unité et de communion ecclésiale. Difficile de donner des chiffres précis, reconnaît Mgr Fisichella, l'adhésion a été planétaire à de rares exceptions près, comme la Syrie ou la Chine. Au Vatican, le Saint-Père priera à genoux, en silence, face à l'ostensoir placé sur l'autel de la confession. Il demande que l'on prie plus spécialement pour que l'Église soit toujours facteur de miséricorde dans le monde, ainsi que pour ceux qui endurent les souffrances des nouveaux esclavages. Les victimes des guerres, de la traite, du narcotrafic, les travailleurs et les enfants exploités, les chômeurs, les femmes battues, les immigrés, les sans-abri, les prisonniers, pour ceux qui sont marginalisés. Les cathédrales seront en communication avec la ville éternelle, en mondovision ou par liaison Internet. L'universalité de l'Église pourra pleinement s'exprimer.
En célébrant l'adoration eucharistique solennelle mondiale avec le pape François le 2 juin prochain, l'archidiocèse de Séoul priera à une intention particulière, les relations pacifiques et la réconciliation entre les deux Corées. C'est ce qu'a annoncé le directeur des communications sociales au sein de l'archidiocèse. Une initiative dans une phase de forte tension entre les deux Corées pour prier en particulier pour le bien-être du peuple de Corée du Nord. Le pape François, lors de la messe célébrée ce mardi matin à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, a proposé une réflexion sur la manière dont chaque croyant suit le Christ. La voie du Seigneur est une voie d'abaissement, une route qui finit sur la croix. Elle est toujours là, déclarait le pape, qui a ensuite cité en exemple Mère Teresa, une belle femme qui a fait tant de choses pour les autres. L'esprit du monde ne dit jamais que la bienheureuse Teresa était en adoration pendant des heures tous les jours. Jamais, a déclaré le pape. Il réduit l'activité chrétienne à l'action sociale, comme si l'existence chrétienne était un vernis, une patine. L'annonce de Jésus n'est pas une patine. Elle va jusqu'aux os, au cœur, elle va en notre sein et nous change. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à nos applications en français.